Alors,
micro.
Le sujet, l'école, gros sujet. Moi, j'aime pas l'école, c'est simple. C'est vraiment le. C'est par là que tout commence, en fait, hein, et tout se reproduit aussi. Donc, il faudrait abolir l'école, quoi. Et c'était Ivan Illich, dans les années 70, au tout début des années 70, qui avait écrit « Une société sans école ». On va l'écouter.
Je crois que nous avons eu un certain succès à susciter la pensée sur la nécessité de la déscolarisation des sociétés. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. À l'école, l'enfant apprend avant tout que ce qui est valable à apprendre, ce qui me servira plus tard, ou peut-être ce qui servira à la société plus tard, c'est ce qui peut être transmis par quelqu'un qui est professionnel. On n'apprend que enseigner si on n'est pas professionnellement instituteur et en quelque forme moins valable. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Une fois qu'on fait cette traduction et la rend obligatoire, l'éducation, le savoir même, devient une marchandise. Même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère, l'éducation, ou mieux encore, le savoir, devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. Une fois que je traduis éducation ou savoir en scolarité, automatiquement, il y aura certains qui, pour certaines raisons, seront sélectionnés pour en avoir beaucoup plus que les autres et qui justifieront leurs privilèges économiques, sociaux, politiques, par le fait qu'ils ont accumulé spirituellement une marchandise non tangible qui s'appelle le savoir. Mon erreur, que je partageais avec bien des autres, était de croire que c'est à travers une réforme de l'école qu'on puisse changer. La productivité de l'institution et la distribution.
Et ce qui est fou, en fait, quand on écoute Ivan Illich, c'est que, voilà, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a cette parole aujourd'hui en 2026, vous voyez, un quelqu'un, une quelqu'une, quoi, qui tient vraiment ce discours. Voilà, je pense que l'école, on se dit tous, non, c'est trop bien, il faut, l'école, c'est bien, ça, c'est le savoir. Ça fait du bien d'entendre Ivan Illich. Alors moi, je reviens toujours avec mon Ivan Illich quand on parle de l'école, parce que c'est un discours, c'est clair et net, quoi. Et aujourd'hui, bon, c'est les grèves, il y a la grève à l'école. Mais c'est un sujet qui est long, quoi. C'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Aussi dire que j'ai fait une recherche pour taper, sur Internet, je tape grève, école, Belgique. Je tombe sur des paroles d'enseignants, d'élèves qui parlent de mesures. Ah ben oui, il y aura 2 heures en moins ou 2 heures en plus, pas comptabilisées. Enfin voilà, on parle comme ça de mesurettes, alors qu'en fait, l'école est une entreprise, quoi. D'ailleurs, j'ai tapé école. L'école est une entreprise. Et voilà ce que j'ai trouvé.
L'école entreprise, en fait, c'est une école qui s'organise comme une entreprise privée, fondamentalement.
C'est l'école qui, en fin de compte, a perdu sa mission institutionnelle, qui est de former des citoyens, parce qu'elle a été infiltrée par les principes de gestion de l'entreprise privée.
Donc, le but, c'est plus s'organiser pour former les jeunes, pour répondre aux objectifs de l'éducation nationale. Non, le but, c'est tirer son épingle du jeu sur un marché.
Elle utilise des stratégies de marketing pour s'attirer des élèves parce que les élèves sont devenus des clients. On parle de plus en plus de clientèle. Et en fin de compte, ces élèves-là, ils vont voir les savoirs non pas comme des objets d'apprentissage, mais comme quelque chose qu'ils vont échanger en retour d'un diplôme. Puis le diplôme a une valeur marchande sur le marché du travail.
Le problème actuellement, c'est qu'on a des gens au gouvernement qui viennent du secteur privé, se disent « ben moi, ça marchait comme ça en entreprise, donc je vais prendre ce mode de fonctionnement-là qui fonctionnait très bien pour la finalité qui était la mienne, extraire un profit de mon activité, et je vais la transposer dans l'école. »
Le hic, c'est que ça ne fonctionne pas. Tous les États qui ont mis en place des approches vraiment basées sur la nouvelle gestion publique en éducation se sont rendus compte très rapidement que ça n'améliorait pas les pratiques enseignantes, que ça n'améliorait pas les apprentissages des élèves, que ça ne réduisait pas les écarts sociaux entre les élèves, même que ça les accroissait.
Parce que l'école n'est pas là pour ça. Donc, on a des gens qui, en fait, font à peu près n'importe quoi parce qu'ils sont incapables de reconnaître au gouvernement ce qui différencie différentes formes d'organisation dans la société québécoise.
Et on vient d'entendre Stéphanie Demers, professeure de fondement de l'éducation à l'Université Québec, et Philippe Hurteau, politologue, chercheur. Je trouve que c'est bien expliqué. Hein. Puis c'est une vidéo qui date d'il y a 7 ans. Donc voilà, c'est pas quelque chose. L'école, c'est un sujet, waouh, c'est un vieux sujet. Hein. Et on n'a pas tout suivi, on connaît pas toute l'histoire. Enfin voilà. Et j'avais aussi envie de faire écouter Dominique Méda, passe sur une radio publique, qui est sociologue et philosophe et qui est de gauche. Hein. Ben, on l'entend, c'est moins radical quand même comme manière de penser. Bon, elle dit on a professionnalisé l'enseignement supérieur.
On promet en effet aux enfants que s'ils travaillent bien, ils auront un bon métier. Et ça, on voit bien que c'est pas vrai. La France est un des pays où, en fait, on croit qu'on est complètement dans la méritocratie. Mais cette méritocratie, elle s'appuie sur le capital social des parents, enfin, social et financier. Et donc, le mérite, très souvent, ça se ramène à la position des parents dans la société.
En gros, quelle que soit nos notes à l'école, si nos parents ont du réseau, on progressera dans la société.
C'est pas exactement ça. C'est que, justement, vous allez avoir des meilleurs notes parce que très tôt vous avez eu plein de bouquins à la maison, vous avez été dans les bonnes écoles avec les bonnes personnes, vous avez été dans des officines qui vous ont aidé, etc., etc.
Mais est-ce que l'école nous prépare suffisamment au monde du travail, l'école française actuelle? Et question annexe, doit-elle, est-ce que c'est le rôle de l'école de nous préparer au travail?
Alors je dirais, ça c'est vraiment une question super compliquée. On promet en effet aux enfants que s'ils travaillent bien, ils auront un bon métier, et ça on voit bien que c'est pas vrai. On a professionnalisé l'enseignement supérieur, donc de plus en plus, mais c'est vrai que si on compare à des pays comme le Danemark, la Suisse ou l'Allemagne, où il y a une plus grande porosité entre le monde du travail et le monde de l'école, je dirais qu'il y a moins de problèmes, il y a moins de désillusions. Parce que vous savez qu'un des problèmes, c'est par exemple qu'aujourd'hui les jeunes, c'est le CEREC qui nous raconte ça, vous avez plus d'un tiers des jeunes qui, au bout de 3 ans, après la sortie du système scolaire, veulent se reconvertir, veulent changer d'emploi.
Il y a un problème d'orientation à la sortie des études.
Il y a un problème que les gens ne savent pas très bien, les jeunes ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire. Et je crois qu'il y a un problème d'orientation et d'aide à l'orientation. Et puis, peut-être on y reviendra, il y a un problème aussi d'organisation du monde du travail. C'est pas toujours super intéressant, le monde du travail.
Pour Dominique Méda, il y a un problème d'orientation. Les jeunes ont du mal à s'orienter. Mais je trouve que c'est drôlement dit dans le sens que c'est pas les jeunes qui ont du mal à s'orienter, c'est le monde qui tourne dans tous les sens, quoi. Donc d'office, les jeunes ont du mal à s'orienter. Voilà ce qu'on peut dire, voilà ce que je peux dire quand j'entends ça. Bah, il y a plein de choses à dire, hein, mais on ne parle plus évidemment d'esprit critique. On n'est plus du tout là-dedans, quoi. On n'est plus dans le savoir et la connaissance. On doit s'adapter au monde de l'entreprise. Et puis, on le dit ici dans le micro ouvert, hein, avec Pauline forge et pas Pauline von Sny, qui en effet, Pauline von Sny a fait un film. Pauline Forge, non, c'est elle qu'on rencontre et on la rencontre non pas spécifiquement pour parler de l'école, mais pour parler de syndicats et plus précisément de la Centrale Générale des Services Publics Enseignement Bruxelles, donc de la CGSP. Et elle dit des choses qui sont vraiment... allez, il faut en prendre acte, quoi, de ce qui se dit, là, parce que c'est énorme. Et bien entendu qu'il y a des profs... je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà, Pauline va se présenter, elle est prof. Hein. Et il y a des profs formidables, il y a toujours des gens formidables qui font leur travail super. Et ce qui serait étonnant, c'est que la bataille, vous voyez, le mécontentement commence par la jeunesse, quoi. Parce qu'évidemment, on pourrait tous être dans la rue, vraiment. Et ça pourrait prendre à partir des jeunes, des profs, des parents, par le biais de l'école, quoi. Ce serait marrant.
Micro ouvert.
C'est parti, alors, 1, 2, 3. Ben, tu sais qu'on est le 1er juin, là ?
Oui, on est le 1er juin.
Non, on commence comme ça. On est dans la rue, là, près de ton école, Pauline Forge, c'est ça ?
C'est ça. Donc, mon nom, c'est Pauline Forge. Et je suis enseignante dans une école qualifiante de Bruxelles. Je donne cours de français.
Et Pauline Forge, j'ai l'impression qu'on est déjà rentré en contact il y a déjà plusieurs années. Tu n'avais pas fait un petit film ou quelque chose comme ça ? En tout cas, tu as un pied aussi dans l'artistique, non ? Tu as produit quelque chose, un film, quelque chose comme ça, et que je t'avais même invité à en venir en parler. Ça te dit rien ?
Non, parce que mon seul pied dans l'artistique, c'est via les activités que je mène avec mes élèves. Et donc, j'essaye de réaliser chaque année avec mes élèves. On réalise des pièces de théâtre, on réalise... Parfois, on a plutôt fait des vidéos et tout, mais c'est mon seul lien évident avec l'artistique, c'est via les activités que je mène avec mes élèves, donc je ne sais pas trop ce que ça pouvait être.
Mais... Non, ça ne te dit rien ? Je suis presque sûre, hein, les Pauline Forge, pas fait une maquette de quelque chose, non, ça ne te dit rien, quoi, t'as...
Non.
Tu le saurais quand même.
Ouais, non. En tout cas, j'ai pas réalisé de film. Je suis vraiment prof. Et puis après, je suis souvent dans le milieu culturel, mais pas. Non, j'ai jamais rien fait comme ça.
Bon, alors, pourquoi nous voyons, Pauline ?
On se voit parce que j'ai reçu la semaine passée une lettre qui avait été écrite en fait en février par la CGSP Enseignement Bruxelles. Mais il l'avait envoyé à mon ancienne adresse, donc j'ai dû un peu leur rappeler mon adresse actuelle et tout. Enfin bref, ça a mis du temps pour que je l'aie, cette lettre. Mais enfin, le 28 mai, j'ai reçu une lettre qui m'expliquait que j'étais exclue de la CGSP Enseignement Bruxelles. Et que j'étais exclue parce que je militais au sein d'un collectif qui s'appelle École en Lutte. Et... La raison qu'il donne dans cette lettre, c'est que il y a un article du règlement d'ordre intérieur qui dit qu'on ne peut pas militer dans une autre organisation syndicale ou poursuivant les mêmes objectifs qu'une organisation syndicale. Ça m'a révoltée, évidemment. Je suis la deuxième à recevoir exactement cette même lettre. La première, c'est ma camarade Célia, qui milite avec moi à École en Lutte et qui est une camarade de lutte depuis longtemps. Et École en Lutte, évidemment, n'est pas du tout une organisation syndicale.
Et quoi Donc ça pose problème, quoi. Ça pose problème d'être dans deux... T'es dans un syndicat et en plus dans un mouvement en lutte, quoi, si je comprends bien. Ça ne va pas pour le syndicat.
En fait, je me suis questionnée par rapport à cet article de règlement. Et à mon avis, ils ont dû le mettre un jour dans le règlement d'ordre intérieur pour éviter que quelqu'un soit affilié à la fois... à la CGSP et à la CSC, par exemple, que cette personne se déclare en grève et réclame des indemnités de grève à la CSC et à la CGSP. Et pour éviter que quelqu'un... Mais bon, cette personne, du coup, cotiserait aussi deux fois tous les mois. C'est pas très logique, mais bon, soit. J'imagine que c'est pour des raisons de cet ordre-là qu'ils avaient mis ça comme article. Et Ben là, la réalité, c'est que moi, je milite dans un collectif. Mais en fait, comme depuis que j'ai 18 ans, je milite dans plein de collectifs. École en lutte, c'est un collectif qui regroupe aussi bien une majorité de profs, mais que des profs, des éducs, même des élèves, des parents. En fait, toute personne qui gravite autour de l'éducation et qui a envie de s'investir pour une école démocratique, accessible à toutes et tous, et défendre certaines valeurs. Et ça a été créé dans la foulée de la santé en lutte en 2020. Ça existe aussi dans d'autres secteurs. Il y a travail social en lutte, il y a PMS en lutte. Et donc, à École en lutte, on s'organise entre nous pour justement, réclamer des meilleures conditions de travail.
Réclamer, j'adore comment tu dis ça.
Ben, s'organiser, quoi. Et ça veut dire, on fait plein de choses en vrai. Parfois, on arpente des livres, par exemple. Il y a eu un arpentage de comment entrer en pédagogie antiraciste, parce que c'est aussi comment nous, à l'intérieur de nos écoles, on lutte pour qu'elles soient démocratiques et égalitaires. Je sais pas, on a organisé une conférence sur la dette pour comprendre quand la ministre dit oui, mais c'est pour payer la dette qu'on doit faire des économies dans l'éducation. Ben, on avait besoin de s'outiller et de comprendre. D'où vient la dette et pourquoi elle explose et pourquoi on coupe dans l'éducation alors qu'en fait il y a d'autres manières de rembourser la dette. On fait ce genre de choses et puis on s'organise aussi pour les manifestations, pour les grèves, pour être ensemble. Et donc on vient de plein d'écoles différentes. Mais c'est un collectif où il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas non plus de direction, d'appareil de direction. On fonctionne de manière hyper organique. Parfois, on est 5 aux réunions, parfois on est 50.
C'est ça qu'on peut se poser comme question. On démarre là, hein, l'émission. Donc, tu es syndiquée, depuis quand ça ?
Je suis syndiquée depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, je crois officiellement en 2007. Et puis, 2008.
2007 ?
Ouais. Et depuis 2008, je suis à la CGSP Enseignement. Donc, je crois que pendant un an, vu que je faisais d'autres boulots. De pigiste et tout, j'étais au 7K, FGTB 7K, quoi, dans un autre secteur. Et puis, dès que j'ai été engagée dans l'enseignement, 1er septembre 2008, je me suis tout de suite syndiquée à la CGSP Enseignement.
Pourquoi ?
Vraiment, dans un double souci, en fait, le premier, c'était d'être protégée. Et donc,
Mais protégée de quoi ?
J'avais toujours eu en tête que c'était important d'être organisée collectivement en tant que travailleuse et donc de pouvoir faire respecter mes droits. Et donc de se dire, ben, si jamais on me reproche quelque chose que je n'ai pas fait, si jamais j'ai des soucis sur mon lieu de travail, je veux pouvoir être défendue par une organisation syndicale.
Mais qui t'a dit de faire comme ça ?
Qui m'a dit ?
De te syndiquer, quoi. C'est des collègues, c'est passé comment ?
J'étais déjà organisée politiquement quand j'ai commencé à travailler. Et donc.
Ça veut dire quoi, organisée politiquement ?
Ben, à l'époque, je militais à la LCR, la Ligue communiste des travailleurs. J'étais déjà. J'ai commencé à être militante là en même temps que j'ai commencé à travailler quand j'avais 22 ans. Et donc, c'était très clair pour moi que dès qu'on travaille quelque part, dès qu'on est salarié quelque part, il faut syndiquer. Au moins pour se protéger. Évidemment qu'il y avait aussi cette question militante si je mène des activités militantes, je veux que ce soit collectif et que ce soit protégé. Et puis après, il y avait aussi, dès le départ, comme je militais déjà à la LCR, l'idée de s'organiser collectivement avec mes collègues. Et donc, je suis restée 9 ans dans la même école. Et les 4 premières années, il n'y avait pas d'organisation syndicale dans mon école. Donc j'étais juste affiliée, j'allais aux réunions syndicales de Bruxelles. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à bien connaître mes collègues et qu'on a commencé que j'ai commencé à bien connaître l'école, je me suis proposée comme déléguée syndicale. Et donc pendant 5 ans, j'ai été déléguée syndicale dans cette école pour les mêmes raisons de s'organiser collectivement. Et franchement, c'est hyper utile. Il y a eu plein de cas. Allez, d'être déléguée, ça m'a permis aussi bien de défendre les droits de certaines collègues pour leur congé de maternité.
Par exemple, pour qu'on comprenne.
Voilà.
Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, tu vois. Mais ce que j'arrive, moi, au bout de la course, quoi. Tu vois, genre, on n'est pas content du monde comment il va. Ça ne va pas bien, quoi. Et on nous parle toujours de ces syndicats, mais en fait, on se rend compte qu'ils tournent en rond, qu'ils nous font tourner en rond. Alors peut-être, sûrement, ça j'ai déjà entendu, il faut le dire, peut-être dans un syndicat, il y a des gens qui sont exceptionnels, quoi. Mais ça fait longtemps, en tout cas, c'est pas eux qu'on voit en première ligne, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc on a l'impression que ce syndicat, moi qui suis absolument pas là-dedans, qui apprend, tu vois, qui essaie de comprendre, ça bouge pas, quoi. Ça ronronne, et puis ce serait aussi en lien avec, tu sais, le patronat, en fait, ils sont de mèche, c'est pour ça que ça bouge pas. Qu'est-ce que t'en penses que je te dis ça ? C'est pour ça que je te demande, mais quoi ? Un exemple concret avec... congé maternité.
En fait, je crois que c'est particulier à chaque pays. Par exemple, en France, les syndicats, ils sont beaucoup plus politiques, je pense. Alors qu'en Belgique, il y a une tradition qui s'est installée. Je serais incapable d'expliquer comment exactement, mais une tradition qui s'est installée du syndicat qu'on appelle le syndicat de service. Et donc, la plupart des gens, quand ils commencent à travailler, la plupart de mes collègues sont syndiqués. Et quand tu me disais pour être protégé de quoi, c'est notamment pour avoir accès à ses droits. Il faut savoir qu'aussi, il y a énormément de chômeurs et de chômeuses qui sont syndiqués, puisque le syndicat joue aussi un rôle en Belgique pour transmettre le chômage. Je ne le dis pas avec mes mots comme ça, mais on a le choix, soit on va à la CAPAC, soit on va au syndicat. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire ça via le syndicat. Et donc, le syndicat de service, je crois que ça explique que... je crois que c'est un chiffre vraiment énorme en Belgique. 80 ou 90% des travailleurs, travailleuses sont syndiqués dans un des trois grands syndicats. Donc FGTB, CSC ou CGSLB. Les rouges, les verts ou les bleus. Et donc, là, on pourrait dire que c'est un peu comme le choix de la mutuelle. C'est un choix plus en fonction de ses valeurs, mais c'est aussi un choix en fonction du rapport de force qui existe dans une école. Ou de la délégation syndicale qu'il y a. Quand on entend des discours qui critiquent les syndicats, souvent, moi, ce que j'observe, c'est que sur le terrain, les délégués syndicaux, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas des permanents, qui sont des personnes juste qui sont élues par leurs collègues pour défendre leurs droits, souvent, moi, ce que j'observe, c'est vraiment beaucoup de dévouement et de l'efficacité sur le terrain.
Vraiment ? Baratine pas, hein. Défends pas tes collègues. Hein.
Non, je peux juste parler de comment je me suis investie pendant 5 ans.
Oui, toi, en ton nom.
Ouais, et des délégués que je croise souvent. En fait, on n'a pas trop d'intérêt de faire ça, puisqu'on n'est pas rémunéré, à part pour rendre service à la collectivité. Et donc, moi, j'ai l'impression que quand il y a des luttes qui fonctionnent bien, souvent, les délégués syndicaux, sur le terrain, joue un rôle important et que c'est une manière vraiment de s'organiser collectivement. Par contre, pour moi, l'intérêt aujourd'hui de parler, c'est de parler de c'est quoi la démocratie au sein du syndicat. Et quand on parle de co-gestion, d'accepter la négociation et tout, souvent, c'est les personnes qui nous représentent au syndicat et souvent, c'est des personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle la bureaucratie syndicale, qui sont plus sur le terrain, qui sont déconnectées du terrain, qui sont payés par nos cotisations, hein, pour être clair, qui sont du coup dans des bureaux et qui côtoient le monde des décideurs, puisque c'est eux qui sont amenés à aller en négociation. Et moi, ce que j'observe, c'est que, en tout cas, le reproche que je peux leur faire, c'est qu'il y a une partie de ces gens-là qui sont déconnectés, qui ne sont plus sur le terrain, qui savent, si on parle des profs, mais qui n'ont plus été en classe depuis des années. Et pour moi... ce qui sert la lutte, c'est quand même, là, quand on a des discussions avec mes collègues le matin, quand on fait des arrêts de travail, on part de ce qu'on connaît. On part de nos élèves, on part de ce qui va vraiment se passer. Et c'est ça qui nous donne cette colère légitime, qui nous donne la force de nous organiser et qui nous donne envie de se mettre en grève, d'être prêt à perdre notre salaire et tout. Mais si on n'est plus sur le terrain, je me questionne quand même, est-ce qu'on peut avoir la même... rage quand on n'est pas directement concerné. Et en tout cas, là, ce qui se passe par rapport à la CGSP Enseignement Bruxelles, c'est que je constate une déconnexion totale entre le terrain. Moi, il n'y a jamais personne que ça a gêné, que ce soit dans mon école ou parmi toutes les personnes que je croise dans la lutte, que je sois dans un collectif. Parce qu'en plus, généralement, j'en parle pas. Enfin, dans mon école, j'ai pas besoin de dire « je suis dans l'école en lutte, qui veut venir me... ?» Non, juste, moi, ça m'aide d'être structurée avec des profs qui partagent les mêmes valeurs que moi. Ça m'aide un peu à savoir, en fait, qu'est-ce qu'on veut dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on revendique et comment on s'organise pour l'obtenir. Mais en vrai, jusqu'ici, avec mes collègues, moi, j'allais aux réunions CGSP.
Avec tes collègues professeurs ?
Avec mes collègues enseignants, au sein de l'école. J'avais, jusqu'au mois de novembre, avant qu'elle soit en arrêt de maladie, j'avais une super déléguée qui est éducatrice, pour le coup, qui sait très bien pourquoi elle se bat, parce que les éducateurs aussi morflent dans l'éducation. J'avais jamais parlé d'école en lutte, juste je participais aux réunions comme n'importe qui et j'étais active du meilleur moyen que je pouvais. Et puis après, dans mon école, elle a été en arrêt maladie depuis le mois de novembre et mes collègues avaient déjà demandé, vu qu'elle était éducatrice, qu'on soit deux délégués pour avoir une déléguée prof, une déléguée éducatrice et qu'on puisse mener le combat ensemble. En fait, on en avait parlé, on trouvait ça génial. Et on a demandé à la CGSP de faire des élections pour que je puisse être co-déléguée avec elle. Et les élections n'ont jamais eu lieu. Et à chaque fois, on nous disait que c'est par manque d'effectifs. Mais un jour, la présidente du comité ville de Bruxelles de la CGSP est venue et mes collègues lui ont dit « Mais en fait, on pourrait très bien faire les élections maintenant. » Et elle a dit non, parce qu'à la régionale, ils m'ont dit que je ne pouvais pas le faire. Et donc, on ne saura jamais, parce qu'il n'y a rien d'écrit, mais clairement, l'impression que ça nous a donné à toutes et tous, c'est qu'elle ne pouvait pas le faire parce que c'était moi. Et le fait qu'ils m'aient exclu après confirme ça. Qu'ils ne veulent pas des militants, militantes, d'autres collectifs qui prennent des rôles de délégués et tout.
Oui, mais pourquoi au fond ?
Alors, moi, je crois que c'est l'inverse de ce que Valérie Denayer a déclaré dans un discours public il y a quelques jours.
Qui, Valérie Denayer ?
C'est la secrétaire de l'interrégionale bruxelloise de la CGSP Enseignement Bruxelles.
Enchantée.
Voilà. Et elle a déclaré au congrès de la FGTB qui a eu lieu il y a quelques jours qu'il se réjouissait à la CGSP Enseignement que d'autres collectifs, que d'autres mouvements soutiennent, soulèvent la base, voire les dépassent. Elle a déclaré ça publiquement. Et moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Je ne comprends pas pourquoi ils auraient pris des mesures comme ça, pourquoi ils auraient dit à leurs délégués de ne pas participer aux actions Mars Attacks, de ne pas encourager les actions collectives, de ne faire des actions que CGSP, de faire des photos quand tout le monde est en rouge, de nous exclure. Je ne comprends pas ça autrement que, en fait, on veut garder le contrôle, on veut que les gens appliquent nos ordres, uniquement nos ordres. On ne veut pas d'union avec d'autres collectifs, voire avec d'autres syndicats. Et je n'arrive pas à comprendre ça autrement que comme ça. Ça, c'est ma lecture. Et par contre, heureusement, je crois que ce type de personne, que je nomme, hein, puisque c'est une personne publique, ce type de personne ne représente pas l'entièreté du syndicat. Je veux rester lucide par rapport à ça. Même ne représente pas la CGSP Enseignement dans son ensemble, parce que dans d'autres régionales, il y a des régionales qui soutiennent leurs affiliés dans la lutte. Je pense à Liège, par exemple, où ils ont tout de suite soutenu les grèves et où il n'y a pas eu tous ces trucs comme à la CGSP Enseignement Bruxelles, où on doit se battre pour pouvoir se mettre en grève. Et ça, c'est épuisant, parce que c'est déjà épuisant de se battre.
C'est surtout révoltant. Moi qui suis... Mais je voulais dire, ce que tu dis là... Il y a pas mal de gens qui le savent aujourd'hui de tout ça, quoi. Qu'il y a des chasses gardées. On l'a bien vu avec les gilets jaunes aussi. C'est un très bon exemple, non ?
Oui.
Enfin, je sais pas si t'es un peu au courant de tout ça.
Oui, j'étais aussi dans le soutien au mouvement aux gilets jaunes à l'époque. Mais ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a plein de gens qui le découvrent là maintenant, comme mes collègues, qui ne sont pas militants, militantes à la base, et qui n'ont réellement pas compris pourquoi leur syndicat ne les encourageait pas à faire des actions Mars Attacks. C'est quelque chose qui était incompréhensible. Et donc, mes collègues, ils ont écrit des lettres pour signifier ça au syndicat en disant, en fait, on ne comprend pas. Et on n'a pas eu de réponse. Parce que je crois que la réponse, elle est indicible. Qui va répondre parce qu'on veut garder le contrôle et que les initiatives ne doivent partir que de nous et que...
Pourtant, c'est ça qui se passe. Hein, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a des gens qui remarquent ça. Après, tu dis sûrement pas tout l'ensemble, mais ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, en fait, alors au sein de ce syndicat, quoi. Tu comprends ? Il faudrait, je sais pas moi, écarter les gens, parce que ça tue la lutte, en fait. Hein.
Moi, là, mon objectif, en parlant de mon histoire, en la publiant et tout, c'est En fait, je veux des victoires. Je veux des victoires parce que j'en ai marre. C'est comme dans l'enseignement, on a vécu les grèves. Enfin, justement, mes collègues, il y en a qui ont vécu les grèves des années 90, qui ont dû rentrer après à l'école comme si de rien n'était, après avoir lutté et tout. Là, je veux des victoires au niveau de l'enseignement. Je veux qu'on arrive à obtenir le retrait de toutes les réformes et qu'on puisse avoir cette fierté-là de dire, en fait, on a lutté pour nos élèves, pour nos droits, mais on a gagné. Donc, je veux ça. Et au niveau du syndicat, je veux des excuses, parce que après tout, tout le monde peut merder, hein. Mais je veux des excuses publiques et je veux la reconnaissance que tous les collectifs, justement, ils ont mis dans leurs lettres, on exclut les membres des collectifs qui poursuivent les mêmes objectifs. Mais pour moi, je comprends qu'on exclue les fachos, qu'on exclue les personnes qui ont des comportements racistes, homophobes, sexistes. Ok, ouais, ces personnes-là. Je comprends qu'on les exclue vraiment.
On en fait quoi ?
Moi, j'aime bien. Ça vaut la peine de penser aussi l'exclusion, effectivement, comment on fait pour qu'elle soit efficace ? Parce que je crois que si on fait ça sans dialogue, sans parler avec les gens, sans faire de travail pédagogique, ben, c'est pas très utile. Donc... Mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais pour moi, le syndicat a un travail pédagogique à faire au niveau des idées politiques de ses affiliés. Et donc... oui, il suffirait pas d'exclure, il faudrait aussi faire un travail de fond en disant, ben, en fait, c'est des valeurs qu'on défend. Mais soit, si j'avais eu des comportements comme ça, j'aurais pu comprendre qu'on m'exclue. Par contre, m'exclure avec comme motif que je poursuis les mêmes objectifs, ça, pour moi, c'est vraiment mais inacceptable. Et je veux me battre, faire un recours. Je sais déjà, je devine déjà qu'ils vont dire « Ah ben non, ton recours, tu avais un mois pour le déposer, ton courrier date du 11 février, il fallait le faire avant le 11 mars. » Sauf que j'ai la preuve que le recommandé, je l'ai eu le 28 mai. Et je veux qu'on arrête de faire de chipoter sur les détails. Je veux qu'on parle du fond. On ne peut pas se battre contre des collectifs qui défendent les mêmes objectifs que nous. En fait, on a besoin d'union. On a besoin d'union dans la gauche, on a besoin d'union.
C'est dingue d'entendre ça.
Ouais, et du coup, là, moi, je suis prête à partager mon histoire en disant ce que je veux, c'est vraiment que dans le futur, on puisse tout à fait, sans avoir besoin de se cacher ou quoi, enfin, c'est n'importe quoi, militer dans des collectifs qui soutiennent la lutte syndicale et ne pas les voir comme opposés, parce qu'en fait, il n'y a rien d'opposé. C'est complémentaire. Moi, dans les collectifs, ben, ça m'apporte des choses que le syndicat ne m'apporte pas. Notamment une analyse politique approfondie. Ben, pour le moment, le syndicat ne m'apporte pas ça. Par contre, le syndicat m'offre autre chose, notamment un rapport de force, parce qu'en Belgique, on est nombreux à être affiliés. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on met la pression avec Mars Attacks sur le gouvernement en disant on veut le retrait de toutes les mesures. Ben, ce que j'aime bien avec ce mouvement qui dépasse les syndicats, les partis, les réseaux et tout, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, on met aussi la pression sur les syndicats, parce qu'aujourd'hui, les syndicats ne seraient pas légitimes d'aller négocier ces réformes. Nous, on veut le retrait de toutes les réformes. Et c'est important que le syndicat, pour moi, oui, que les collectifs existent pour que le syndicat sente qu'en fait, oui, on vote pour des personnes et tout, mais on garde le contrôle, nous, la base, sur ce que ces personnes vont décider. Et donc, il n'est pas question qu'elles acceptent des aménagements et tout, sans venir nous consulter, nous, la base.
C'est qui le « nous », là ?
Le « nous », c'est la base, c'est les affiliés. Les affiliés qui n'ont pas de statut au sein de la CGSP. Je sais qu'un truc très dur à accepter pour nous, ça avait été, je ne sais plus en quelle année exactement, peut-être 2015. Il y a eu une année où on nous a fait voter au sein de la FGTB par rapport au pacte d'excellence. Et on nous a demandé, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le pacte d'excellence ? Et à Bruxelles, on avait tous voté à l'unanimité contre. Et on a été très très mal après que la CGSP accepte des choses du pacte d'excellence
alors que vous aviez les affiliés avaient dit non.
Oui. À Bruxelles, à la régionale, on était tous contre en fait. Et donc ça, pour moi, c'est un exemple de démocratie syndicale. Notre parole, elle doit être respectée par les dirigeants syndicaux. Quand la base, elle s'exprime pour quelque chose, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a 51% de personnes qui se prononcent pour quelque chose que ça te donne la légitimité de négocier. Ça veut quand même dire qu'il y a 49% qui sont contre. Pour moi, il faut réfléchir à la démocratie syndicale, quoi. Et ouais, je pourrais. La liste est longue à la CGSP Enseignement Bruxelles. Ils ont un minimum d'assemblée générale avec l'ensemble des affiliés de deux par an. ce qui est extrêmement faible au niveau démocratique. Et en gros, ces assemblées, elles ont eu lieu cette année-ci en octobre et en novembre. Depuis le mois de novembre, il n'y a pas eu d'assemblée générale proposant aux affiliés de se rassembler pour parler ensemble de la lutte. Or, notre lutte, elle a vraiment commencé à se durcir en novembre. Donc, c'est de la folie qu'un syndicat ne mette pas à disposition de ses affiliés un espace où parler, où se rencontrer, où s'organiser. Pour moi, ça, c'est la base du syndicat.
Mais quand tu dis que c'est de la folie, mais tu crois pas qu'il y a, enfin, qu'il y a une volonté pour finir, quoi. Tu comprends que ça bloque, que ça patine, et que peut-être maintenant il faut passer à autre chose, quoi, tu vois. Et donc ça met plus de temps parce que les gens doivent s'organiser, ils doivent se repérer, tu vois, parce que le syndicat, en fait, moi j'ai souvent entendu, c'est une force, ça regroupe je sais pas combien, 3 millions de gens en Belgique. Je sais pas si c'est en Flandre aussi, donc je crois pas que c'est la Flandre, je crois que c'est purement. Les francophones, quoi. Donc ça, et alors on dit que c'est une machine forte, quoi, ce syndicat. Mais au fait, j'ai l'impression que ceux qui sont à la tête, ou en tout cas à des postes stratégiques, ils bloquent, quoi. Et comme ça, pour avancer, parce que tu sais, le temps, il passe vite, hein. Mais Botson, la FGTB, peut-être tu connais moins, mais puisque t'es dans ce milieu-là, là, il vient de passer la main. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Botson et qu'il passe la main?
Je serais incapable vraiment de parler de Botson. Je sais que là maintenant, il y a deux secrétaires généraux, Selena Carbonero Gomez. Selena Carbonero, j'ai écorché son nom. À mon avis, c'est pas le bon nom. Mais et en fait, je connais leur prénom. Et c'est vrai que dans le syndicat, souvent, on parle. Voilà, Selena et Berthe, côté flamand, Berthe et Selena côté francophone. Je sais que c'est eux qui ont pris la relève. J'ai vu certaines de leurs déclarations avec lesquelles j'étais totalement en accord. J'ai vu par exemple qu'ils se mobilisaient pour la Palestine. Et j'ai vu des déclarations qui, pour moi, allaient dans le bon sens au niveau politique. Qui justement allaient dans le sens de soutenir les mouvements et tout. Je ne les connais pas personnellement. Oui, le syndicat, ben, c'est un formidable outil en fait, je crois.
Mais tu ne crois pas qu'il est mort ? Ou qu'il est complètement à côté de ses pompes et il ne fait plus le travail ?
Ben, je crois que c'est un peu comme partout, que ça va dépendre du rapport de force. Et que du coup, ben, si le rapport de force il est fort et que les personnes qui sont élues au sein du syndicat savent que la base va observer ce qu'ils et elles vont décider et que si ça ne va pas, ils vont demander qu'il ou elle soit révoqué.
J'entends bien, mais est-ce que c'est pas aussi, enfin, normalement, c'est le même camp, quoi. On n'a pas à se battre dans le normalement, à des postes stratèges. Normalement, ça doit reprendre toute la force des gens, quoi, pour aller justement se confronter là où il faut vraiment de la bagarre. Tu vois ce que je veux dire? On perd du temps, ça fatigue, les gens n'y croient plus, hein. Enfin.
Oui, ça nous fait perdre de l'énergie au lieu de nous en donner. Et je suis d'accord, idéalement, ça devrait être ça. Après, ben ça, oui, peut-être j'avais pas trop d'idéaux par rapport à ça, peut-être parce que je suis militante politique depuis pas mal de temps et qu'on m'a appris un peu l'histoire des luttes. Que par exemple, je sais très bien que les femmes qui ont obtenu une augmentation de salaire à la FNDR-Stahl dans les années 60, je sais qu'elles ont dû se battre contre leurs délégués syndicaux qui leur ont dit à un moment donné « Non, mais on va négocier, calmez-vous maintenant ». Et qu'elles ont dû se battre en disant « Mais non, en fait, on ne va pas se calmer. On a commencé cette grève, on va aller jusqu'au bout. » Et que c'est grâce à ça qu'on a obtenu des droits. Mais que c'est pas... Elles ont dû se battre contre leur délégation syndicale aussi. Et je crois qu'il y a 1000 exemples dans les luttes. Et c'est ce qu'on appelle la bureaucratie syndicale. Je crois qu'on pourrait expliquer... Je ne suis pas du tout sociologue, hein, mais expliquer ce phénomène un peu de la même manière que pourquoi les médias sont de droite. Et je m'étais penchée sur cette question à un moment donné de pourquoi les journalistes ont tendance à relayer des discours de droite alors qu'eux-mêmes souvent sont précaires. Et en fait, je sais que c'est prouvé. Ils côtoient le monde des dirigeants au jour le jour. Ils se retrouvent dans des petites réunions où on offre à boire et tout avec des dirigeants. Parfois, ils confondent. Ils ont vraiment l'impression qu'ils appartiennent à ce monde-là. Je me demande si quand même les dirigeants syndicaux à côtoyer des dirigeants ne confondent pas et oublient. Pour moi, il y a quand même un problème de déconnexion où le meilleur moyen de rester connecté, c'est de rester sur le terrain. Et donc, ouais, je sais pas, si je devais parler d'un idéal, peut-être que les dirigeants syndicaux, ce serait intéressant qu'ils restent aussi travailleurs, travailleuses.
Ils le sont pas ?
Ah ben non. À un moment donné, quand t'es permanent, t'es détaché de ton travail et tu deviens fonctionnaire dans un bureau. Et pour moi, en qui j'ai confiance au syndicat, ben c'est toutes les personnes qui sont sur un lieu de travail. Parce que ces personnes-là, si elles décident des trucs de merde, leurs collègues vont leur rappeler le lendemain en disant « t'as pris cette décision-là, mais c'est une décision qui va contre nous, donc en fait tu vas pas faire ça, t'as la pression de tes collègues, et puis surtout tu sais de quoi tu parles ».
Mais c'est super ce que tu dis, parce que du coup, moi je comprends un peu mieux aussi tout ce bazar. Tout en sachant très bien à la base que de toute façon ça déconne. Hein. Mais tu vois, quand on rentre un peu plus dans le. Que tu expliques que oui, non, les syndicats qui sont à la tête, eux, ils sont déconnectés complets. Ça, tu vois, je n'avais pas vraiment réalisé. On est à 30 minutes. Il reste 45 minutes. J'ai envie.
Un quart d'heure.
Oui, j'ai dit quoi ?
Il reste 45 minutes.
15 minutes. Et vers quoi tu as envie de nous emmener ? Ou sinon, moi, j'ai une question plus aussi alors pour l'école. Qu'est-ce que tu as envie de faire ?
Par rapport au syndicat, si je devais boucler, moi, quand je me suis investie au syndicat en 2008, c'était avec cet espoir quand même que justement le rapport de force peut permettre que cet outil soit utile. Et donc, si on me posait la question, est-ce que tu crois au syndicat ? Malgré le fait qu'ils viennent de m'exclure.
Comme tu crois à Saint-Nicolas ?
Ça fait penser à ça. Oui, c'est ça. Ouais, peut-être croire, c'est pas le bon mot, parce que je suis pas trop croyante, je suis agnostique en général. Mais est-ce que j'ai de l'espoir dans le syndicat ? Est-ce que je pense, par exemple, que c'est, si je rencontrais quelqu'un qui commence à travailler, est-ce que je lui dirais de s'affilier ? Eh bien, malgré tout ce qui se passe là, je lui dirais oui.
Tu lui dirais pas, va dans le Mars Attack ou...
Ah si, je lui dirais, viens, milite avec moi dans ce mouvement Mars Attacks, qui a une force incroyable. Mais je lui dirais, par ailleurs, syndique-toi. Et donc, je reste persuadée que le syndicat est un outil de lutte, malgré tout ce qui se passe. Et un outil qu'on doit réussir à transformer de l'intérieur. Et que c'est à nous, mais exactement comme dans la lutte par rapport au gouvernement, qu'il faut créer le rapport de force. Là, ce qui est assez dingue, et ça me permet de faire la transition avec Mars Attacks, c'est que c'est un mouvement spontané qui est né de la base. Moi, la première fois qu'on en a parlé, j'étais là, c'est quoi ce nom ?
Quand on n'aimait pas ?
Moi, j'étais sceptique. Mars Attacks, parce qu'on crée le truc en Mars. OK. Quand on a dit la première fois, allez, on appelle les gens à prendre des accessoires de martiens-martiennes, j'y croyais pas une seule seconde. Et j'ai halluciné en arrivant à la gare, en voyant plein de petits martiens-martiennes. Il y a un côté drôle à tout ça. Il y a de l'humour. Il y a un côté bon enfant. Et c'était pas du tout gagné. Mais si ça a pris comme ça, c'est parce que ça vient d'années où les profs ont subi des trucs et où on sait que c'est injuste et où on sait ce qui se passe pour nos élèves. Moi, je sais que la goutte d'eau, ça a été ce moment où, au moment où ils annoncent les coupes dans l'école, mes élèves m'ont montré la lettre qu'ils avaient reçue, mes élèves de 17 ans qu'on croise depuis tantôt, ils m'ont montré la lettre qu'ils avaient reçue pour les inciter à faire le service militaire. Et pour moi, c'est vraiment le point où on voit, on est avec un gouvernement qui décide d'investir, mais massivement dans la défense, de couper dans tous les secteurs de l'éducation, de la culture, de la santé, tous les secteurs publics essentiels à voilà, une société démocratique.
On y est, quoi, parce que ça fait déjà, c'était dans les tiroirs, quoi.
Voilà, c'était annoncé et on l'a senti, mais là, on a vraiment un gouvernement hyper assumé, de droite assumée, qui dit... Jacqueline Galland qui dit « Oui, oui, on fonctionne à la méritocratie. On va augmenter les salaires des dirigeants de la Fédération Wallonie-Bruxelles au moment où on coupe dans les secteurs. » Enfin, c'est hyper assumé. Et donc, pour moi, Mars Attacks a pris parce que c'était le bon moment et la bonne méthode et qui proposait enfin des actions différentes des syndicats.
Et pourquoi tu dis que ça a pris ? Parce qu'il y avait du monde.
Ça a pris parce qu'on était 12 écoles à faire partie de ce mouvement le 20 mars et qu'aujourd'hui, on est 300 écoles. On est 300 écoles. C'est une force incroyable. Quand on lance, je ne sais pas, on fait tous nos trucs à l'arrache. C'est que des profs qui donnent toute leur énergie, mais tout en essayant de garder le cap dans nos écoles. Et en fait, Ouais, on organise des manifs à l'arrache où malgré tout, il y a des centaines de personnes qui viennent. Je sais pas, il y a... Et puis surtout, il y a ce discours déterminé où depuis le début, on a dit « on ne négociera pas ». Et je sais, enfin là, j'ai la chance d'être dans la coordination de ce mouvement. Et en fait, on va garder cette ligne jusqu'au bout.
Oui, oui, mais on ne négociera pas, c'est trop bien déjà l'idée. Après, le gouvernement, il peut vous envoyer tous péter, hein, je ne sais pas si tu te rends compte. Où tu sens ça, enfin voilà, c'est là, on va vers de l'autoritarisme à fond, quoi, je veux dire, tu comprends ?
Ah ben, le gouvernement, pour le moment, ne lâche pas. Mais, et on sait, hein, qu'on attend là, aujourd'hui de savoir quand le vote des réformes du décret programme 2 vont avoir lieu. On sait que le jour où le vote aura lieu, il y a de forts risques, je ne vais pas dire chance, il y a beaucoup de risques pour que ce soit voté, mais on est dans un mouvement assez fort que pour dire on ne va pas s'arrêter au moment où ça aurait été voté. On est déjà en train de préparer la fin de l'année, on est déjà en train de parler de la rentrée qui va venir. En fait, c'est un mouvement qui est parti pour durer jusqu'au retrait des réformes. Et on a conscience que dans toute l'histoire des mouvements sociaux, ça ne s'est jamais fait en une semaine. Il n'a jamais suffi que 300 écoles se déclarent en grève. Ça ne suffit pas. Donc là, je crois qu'on va avoir besoin de l'appui des autres secteurs. Il y a déjà Students at Axe qui s'est créé, les étudiants. Okay. On se coordonne avec la FEF notamment. Il y a Parents at Axe qui s'est créé aussi. Parce qu'un des arguments des politiciens, c'est de dire « Oui, mais vous prenez les élèves en otage. » Ben, sauf que quand c'est les élèves qui disent ben, « en fait, on est dans le mouvement » et les parents qui disent « on est dans le mouvement aussi », ça devient plus difficile de dire qu'ils sont en otage, puisqu'ils sont dedans. Et je crois que oui, ça va être vraiment sur la durée que ça va marcher et avec le soutien des autres secteurs. Donc là, cette semaine-ci, à mon avis, il va y avoir un appel. Enfin, ça va se décider maintenant. Hein. Mais je crois qu'il va y avoir un appel à la grève totale dans les écoles, au moins le jour du vote.
Et quand le jour du vote ?
On va l'apprendre... Il se débrouille pour qu'on ne le sache pas. Hein. Aujourd'hui, normalement, on va connaître le jour du vote. C'est possible que ce soit ce vendredi, 5 juin.
Pendant les vacances ? Ils ne peuvent pas faire
alors, ça. C'est tout à fait possible aussi que ce vote soit aussi encore reporté, comme il a déjà été reporté, et que ce soit voté à la veille des vacances. Mmh. On peut tout imaginer, hein, qu'ils fassent ça un dimanche ou quoi. Mais en fait, nous, on est prêts. On est prêts à se mettre en grève au moment du vote. Et surtout, je crois qu'il va y avoir un appel à la grève générale de tous les secteurs pour dire, en fait, l'éducation, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les parents. Ça concerne toutes les personnes qui ont des proches qui sont dans les écoles. Ça concerne même, en fait, notre avenir parce que c'est... Là, ils sont en train de détricoter le service public. Il y a des pays où ça a déjà été fait. Donc, on a des exemples. L'Angleterre, par exemple, ça a été fait. Ils ont coupé ils ont détruit les écoles publiques. Bah, du coup, il y a des écoles publiques qui sont vraiment pitoyables, poubelles. Et puis, il y a des écoles privées qui coûtent super cher. Et donc, ça veut dire quoi ? Bah, que les pauvres, ils n'ont pas accès à l'éducation, qu'ils n'ont pas de diplôme, parfois. Mes élèves, là, s'ils sortent sans diplôme, ils vont faire le même boulot, mais juste moins bien payé. 300, 400 euros en moins. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a une logique économique derrière.
Ah, mais oui. Pauline, on avance, hein, parce que tu sais. Hein, justement, sur le sujet de l'école, bon, moi, je trouve que l'école, c'est de toute façon... comment dire, c'est l'outil que les puissants ont trouvé dans l'histoire, hein, ont mis en place pour que, pour mettre les gens, pour mettre la jeunesse au pas, quoi. Voilà. T'es d'accord avec ça ?
Ben oui, oui, oui. L'école, c'est la reproduction des classes sociales. C'est assez évident. Là, ben, je suis dans une école qualifiante. Toutes les écoles qualifiantes, elles sont pauvres et s'y retrouvent les élèves les plus pauvres. Notre indice socio-économique, c'est 2 sur 20. Je ne dis pas le nom de mon école, mais je dis son indice socio-économique. Et ce n'est pas un hasard. C'est vraiment, oui, une société où on divise les gens. Il y a ceux qui vont aller dans les bonnes écoles, qui pourront faire des études et qui pourront diriger.
Disons que maintenant, c'est encore plus fort, c'est cash, quoi. Maintenant, voilà, les nouvelles politiques ne se cachent plus. C'est clair et net, quoi. C'est vers ça qu'ils veulent aller. Des écoles élitistes où il y a, je sais pas, moi j'ai entendu 10% de gens, et puis tout le reste, c'est poubelle, c'est les crétins, enfin voilà.
Ouais, 10%, c'est même, je crois qu'on pourrait dire que c'est un peu comme dans l'expression, on est les 99%, mais la majorité de la population, en fait, elle est précaire, et puis il y a une petite partie de la population qui a accès à l'éducation, à l'élite et tout. Et c'est vrai que quand on est en prof, c'est particulier, parce que quelle que soit l'école, ben, c'est un outil de reproduction des classes sociales. Et donc, je crois que quand on est prof de gauche, quand on y entre...
Ça existe encore, ça ?
Ben, j'espère, ouais, je crois.
Parce que j'avais entendu ça aussi, je trouve que c'était une très bonne analyse de dire que les profs, pour finir, ils se sont embourgeoisés aussi, paraît-il, je sais pas si c'est vrai, tu vois. T'entends des trucs, quoi. Après, j'ai pas fait une enquête, mais pour dire que Boucher, les profs, ils ont pas mal voté pour aussi.
Ah, je crois que le phénomène dont on parlait tout à l'heure, il y a des profs qui pensent, peut-être que quand on est dans une école élitiste et qu'on fréquente des riches, on a l'impression d'en faire partie. Je crois qu'il y a ce phénomène quand même sociologique qui joue. Moi, ça m'aide quand même d'être au contact de la réalité, d'avoir des élèves précaires qui, quand ils sortent de mon cours, vont travailler ailleurs. Et qui souvent font les pires jobs, genre la plupart de mes élèves travaillent dans le secteur du nettoyage et ils nettoient des bureaux la nuit. Et ils font ça alors qu'ils sont parfois encore mineurs. Donc ça aide à être connecté avec cette réalité-là, de les avoir devant moi et qui me rappellent leur réalité souvent en disant « Mais madame, je suis fatiguée parce que j'ai travaillé cette nuit. Je déchargeais des colis à l'aéroport de je ne sais pas où. »
Ah ouais, ouais, ouais.
Ça, c'est la réalité de mes élèves. Après, je crois qu'il y a ce truc qu'il faut assumer, que quand on est prof de gauche, ben, on est de toute façon en contradiction avec le système.
Oui, d'accord, d'accord. Mais je veux dire, il y a de moins en moins de gens qui sont conscients, peut-être, de profs. Hein. Je parle, genre moi, par exemple, je travaille dans le social, éduque, quoi. Je vois bien, on travaille aussi avec des gens précaires, mais ça n'empêche pas que ma collègue, elle roule en BM, quoi. Enfin, tu vois, c'est des gens aussi qui même s'ils sont en contact direct avec la précarité, c'est un peu, je fais mon job, je deviens fonctionnaire. Tu comprends un peu mon idée ?
Ouais, mais c'est pour ça que je fais la différence entre les types d'écoles. Parce que dans l'école où je suis pour le moment, qui est très différente d'autres écoles que j'ai connues avant, si on fait ça, boulot de fonctionnaire et qu'on ne s'investit pas trop, et qu'on est détaché, ça ne marche pas. Parce qu'avec les élèves qu'on a, notre cours, il est mort, il est chahuté. Mmh. En fait, c'est un boulot qui ne fonctionne ici que si on s'investit émotionnellement. Mmh. Parce que vraiment, nos élèves, ils font attention à ça. Si on n'en a rien à foutre d'eux, alors ils n'en ont rien à foutre de nous, mmh. Et c'est un boxon pas possible. Mmh. Par contre, s'ils sentent qu'on est là pour eux, ça marche très très bien. Mmh. Et en fait, ce que je constate, c'est que peut-être que c'est pour ça qu'on était dans les 12 premières écoles à être dans Mars Attacks. Mes collègues, la plupart d'entre elles et d'entre eux, c'est des personnes qui comptent pas leurs heures, qui sont investies, qui, quand on parle des élèves en conseil ou quoi, pensent réellement à qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune-là qui compte pour moi. Mmh. Et du coup, je crois qu'il n'y a pas ce phénomène. Et donc peut-être qu'il y a plus de profs engagés dans les écoles, ça me paraît logique,
Les
écoles précaires.
Mais de toute façon, notre monde aussi est dépolitisé, tu vois ce que je veux dire. Peut-être toi, tu es dedans et tu baignes dedans, mais la majorité, on le sait, on est plus dans le divertissement, dans la consommation. Tu vois, la politique a mis ça en place aussi. Il y a une volonté de dépolitiser, ça arrange bien, quoi.
Oui, et puis même, en fait, je crois que là, il y a même des profs qui ont peut-être voté MR engagés qui se retrouvent quand même dans cette lutte parce qu'ils se rendent compte que ça touche à leur vie personnelle et qu'effectivement, par exemple, cette charge, si je parle vraiment des petits trucs particuliers qui concernent les profs directement, il y a cette mesure qui vise à augmenter la charge de travail des profs du secondaire supérieur sans augmenter leur salaire. Ben là, ça touche directement à la charge de travail et même quand on est un prof qui a voté MR engagé, qui est dans une école élitiste, en fait, tous les profs savent très bien que ce n'est pas 2 heures de plus, mais qu'une heure de cours qu'on donne, c'est autant d'heures de préparation. Et donc, tous les profs savent très bien que c'est injuste. Et donc, je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement, quand je disais, oui, il y a peut-être plus facilement des profs qui vont se mobiliser dans les écoles précaires parce qu'ils sont au contact de cette réalité-là, en fait, là, je crois qu'on observe que les profs se mettent en mouvement partout, que ce soit dans les écoles élitistes ou les écoles précaires, là pour le moment on est unis et ça offre des terrains de discussion que j'ai jamais eu avant.
Ah ouais ?
Ouais, avec des idées parfois, des profs qui sont dans des écoles avec indice socio-économique de 18 qui disent « Ah mais en fait on devrait pendant nos heures de grève venir vous soutenir dans les écoles les plus précaires. » Enfin, on n'a jamais eu des échanges comme ça, alors qu'en fait à la fois on fait le même boulot, on a le même statut et à la fois c'est pas le même boulot, c'est selon le type d'école dans lequel on est, c'est quand même très très différent. Mmh. Et on n'est pas au contact les uns des autres. Et donc, le mouvement social offre ça aussi, ce terrain de rencontre, de se dire, on n'a pas les mêmes réalités d'une école à l'autre, mais on est dans le même bateau, quoi.
Oui, c'est peut-être ça que ça montre aujourd'hui comme c'est vraiment chaud, quoi, d'office. Alors, il y a peut-être plus de solidarité, on se réveille un peu. Moi, j'ai envie de dire, mais ça, c'est vraiment défaitiste. C'est pas trop tard.
Moi, je crois qu'il est jamais trop tard. Mais je dis ça, je pourrais dire la même chose pour le réchauffement climatique, où j'ai envie de continuer à lutter contre le réchauffement climatique, même si on a déjà atteint des niveaux de dingue au niveau de la pollution. Je sais pas, le jour où j'ai décidé d'avoir des enfants, c'était en me disant, pour moi, il est jamais trop tard.
Tu as des enfants ?
Ouais. Et je sais que je me bats pour eux aussi, parce que j'ai en tête la responsabilité que j'avais quand j'ai fait ce choix de les avoir. Je les ai eus avec cette... C'est quand même une croyance que, pour moi, tout peut encore changer et que ça dépend de nous. Par contre, si je fais rien, là, je peux déjà me dire que ça va pas changer. Si on s'investit tous, je me dis, je crois qu'il est jamais trop tard. Il est tard, hein. Il faut pas se relâcher. Il est déjà très, très tard. On a accepté beaucoup, beaucoup de choses, mais il est jamais trop tard.
C'est sûr, c'est sûr. Après, en face, il va peut-être falloir se battre. Je parle même de mettre nos corps en danger ou je sais pas quoi, tu vois, parce que ça devient... j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement des gens maintenant, quoi. Tu vois, c'est... Ils ont leur objectif, là, et en avant, le reste, basta, quoi.
Mais on parle de richesse. Et quand des riches détiennent les richesses, ils vont jamais nous les filer gentiment. Enfin, on parle d'arracher des privilèges. Ben, il n'y a aucune raison qu'ils soient gentils et qu'ils nous écoutent. A priori, c'est logique qu'ils se disent, ben nous, on va tout faire pour les garder. Ils ont remporté les élections, ils sont au gouvernement, ben ils vont tout faire pour les garder. Maintenant, un gouvernement, parfois, ça tombe.
Oui, oui, oui.
Et ça tombe quand on a le rapport de force. Et là, pour le coup, dans l'enseignement, je suis hyper heureuse et fière de dire qu'aujourd'hui, on a le rapport de force. Et c'est assez rare que pour se dire, il faut rien lâcher. Parce que si on leur laisse une miette, alors ils vont essayer de nous le reprendre. Donc là, on est dans ce moment où on doit tout faire pour le garder et l'augmenter. D'où être soutenu par les autres secteurs et élargir le truc encore, encore et encore. Mais pour le moment, c'est ça qu'on voit. Il y a des messages qui arrivent chez Mars Attacks tous les jours de plein d'écoles qui rejoignent le mouvement. C'est vraiment un effet boule de neige, quoi.
Trop bien, trop bien. On arrive à la fin. T'as envie de terminer sur quoi ? Tu peux sortir du sujet, hein, ou revenir.
Non, j'aime bien comment ça nous a amené en fait à se positionner par rapport à l'espoir. Que ben pour moi, il y a aussi une importance d'y croire, une importance d'être soutenu dans la lutte. Pour le moment, je trouve que c'est très dur parce que c'est intense.
D'être soutenu, tu veux dire ?
Eh ben, j'allais parler de tous mes camarades dans la lutte, mais par exemple, mes camarades féministes d'un autre collectif m'envoient des messages tous les jours pour me dire qu'elles soutiennent la lutte dans l'enseignement. Et certains collègues qui ne participent pas spécialement aux grèves ou quoi, voilà, me disent tous les jours, Pauline, on voit ce que tu fais, lâche rien, continue, je suis pas là tout le temps, mais je viendrai demain. Et en fait, tous ces petits mots, toutes ces marques de soutien, toutes ces marques de solidarité, je sais pas, la semaine passée, j'avais amené des croissants pour l'arrêt de travail, j'ai pas su le faire aujourd'hui, une de mes collègues les avait amenés. Et en fait, rendre la lutte conviviale, parler entre nous, se rendre compte qu'en fait, on fait pas ça pour nous, on fait ça pour la collectivité.
Oui, pour nous et la collectivité, hein, parce que sinon ça fait...
Ouais, pas que pour nous. J'ai l'impression que, en fait, il faut prendre soin les uns des autres pour être capable de tenir sur la durée. Et du coup, que ça fait partie aussi de ce truc de donner de l'espoir. C'est un peu se sentir soutenu et montrer à chacun, chacune qu'on est là, quoi.
Oui, que la force, c'est par ici, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Mais j'ai l'impression que chaque petite marque d'affection, on parle beaucoup dans le milieu féministe de la joie militante, ben en fait, qu'on a besoin aussi que ce soit parfois convivial, festif, d'amener à manger, de mettre de la musique. En fait, qu'on n'est pas obligé de lutter en tirant la gueule parce que si on fait ça, ça donne pas envie et je serais la première à avoir du mal à me mettre en grève si c'est pour être toute seule dans mon coin. Le fait de rejoindre des amis, de se dire en fait on va rire, ça va être joyeux, ben ça va nous aider. Et donc Mars Attacks, il y a aussi vraiment beaucoup d'humour dans ce mouvement. On parlait avec la ref au film, les déguisements de martiens et tout. Mercredi, il va y avoir un événement à 17h comme ça, une sorte de happening. C'est au centre scolaire Ma Campagne que ça va avoir lieu. C'est une sorte de happening, mais pour moi qui montre bien l'humour qu'il y a dans ce mouvement. Et en fait, on a besoin de ça, quoi. Donc je terminerai avec ça, pour l'espoir et l'humour et la joie.
Mais trop chouette, hein, Pauline, je te connais pas, mais tu quittes ton l'école là, puis tu fais là, puis tu y retournes quoi là maintenant.
Ouais.
Tu vas donner cours.
Ouais, je vais essayer. On avait dit avec mes collègues que dès qu'on avait une heure de fourche, on essayait d'être devant l'école. Donc, je vais voir dans quelle mesure il y en a qui sont motivés pour corriger, faire des trucs avec moi devant l'école. Et après, je donne cours. Ça me fait du bien de parfois retourner en classe parce qu'en vrai, j'adore ce métier.
Et tant mieux, tant mieux.
C'est les élèves qui nous donnent la force de se battre aussi. Et ils sont super, enfin, ils nous comprennent hyper bien. Donc, ouais. Donc, c'est très gai. Ils ont lancé une pétition pour annuler les examens. Donc ouais, c'est du non-stop là.
Merci à toi.
Bah, merci à toi, vraiment.